6h, 7h, les petits matins de France Culture. Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron ne veut pas laisser une lenteur injustifiée s'installer pour de mauvaises raisons dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le chef de l'État l'a dit hier lors de ses vœux aux Français. Les premiers mois de l'année seront difficiles et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays, a déclaré le président de la République. Un peu plus tôt, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé une accélération de la campagne de vaccination avec la possibilité pour les soignants de 50 ans et plus de se faire vacciner dès lundi, sans attendre la fin janvier. La campagne organisée en 3 phases depuis dimanche dernier prévoyait d'abord la vaccination d'ici fin février d'1 million de personnes parmi les plus âgées et les plus vulnérables. Le réveillon du Nouvel An s'est tenu sous couvre-feu avec quelques violences à Strasbourg, des voitures brûlées, mais des violences moins nombreuses que l'an passé dans la ville. Dans le Bas-Rhin, un homme de 25 ans est mort cette nuit, la tête arrachée par un mortier de feu d'artifice selon la préfecture. Le Royaume-Uni n'applique plus les règles européennes depuis minuit. Le Brexit est effectif. Le pays a quitté le marché unique et l'union douanière après 4 ans et demi de rebondissements qui ont suivi le référendum de 2016. Notons que le Portugal succède à l'Allemagne à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Un rôle qui s'annonce exigeant. Le semestre à venir sera encore très marqué par la crise sanitaire.
Un écrivain déjà connu reçoit une longue lettre d'une femme inconnue. Il y découvre la passion qui a dévoré cette femme depuis qu'elle a 13 ans, qu'elle habitait à Vienne, sur le même palier que lui.
J'ai gagné l'amour de tous ceux à qui je me suis donné. Ils m'ont tous remercié, tous se sont attachés à moi.
Plusieurs fois portée à l'écran, l'une de ses nouvelles les plus célèbres et poignantes, Fermons les yeux, juste la voix, Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig, ce samedi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le 5 janvier, FIP fête ses 50 ans sur l'antenne. Avec des témoignages d'auditeurs, un club jazz à FIP exceptionnel avec Julien Elifiori et Henri Texier, des anecdotes sur l'histoire de FIP et des secrets de fabrication. Rendez-vous tout au long de l'année pour des moments inattendus, des expériences inoubliables. FIP va faire de 2021 une année irrésistible. FIP, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Culture, tout de suite, Le Monde Vivant, Bruno David. Aujourd'hui, Monsieur Dutron et la queue du castor.
En 1966, Jacques Dutron chantait « J'ai pas peur des petits minets qui mangent leurs ronrons au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. » Que fait le castor dans la chanson française ? Dutron, le bien nommé, doit-il craindre ces rongeurs qui attaquent les arbres de leurs incisives acérées ? Non. La chanson fait allusion à la queue plate du castor qui sert de propulseur à l'animal, par ailleurs considéré comme un gros travailleur. Cela fait que le castor travaille beaucoup avec sa queue, offrant à Jacques Dutron l'opportunité d'une insinuation. Le castor d'Europe, castor fibère, est un rongeur aquatique qui se nourrit de matières végétales, écorces, tiges et branches, feuilles, baies ou tubercules. Les castors fascinent les humains depuis l'Antiquité. Ils sont le symbole du travailleur consciencieux, infatigable. On pourrait évoquer ici une célèbre enseigne de bricolage. De l'autre côté de la Manche, les Anglais traduisent « bourreau de travail » par « eager beaver », autrement dit « castor impatient ». Le castor a raison d'être impatient, car il a des reproches à nous faire. Depuis l'Antiquité, il a été traqué pour sa fourrure. Bonnets ou manteaux en castor étaient très prisés au Moyen-Âge, si bien que Charles le Chauve institua le corps des « lieutenants de castor » chargés de les chasser à son profit. L'exploitation du castor concernait aussi sa viande. De piètre qualité, elle était une viande de paysan. Elle était surtout mal vue par l'Église, si bien que le pape Zacharie en interdit la consommation. Un interdit d'autant moins respecté que la faim tenaillait les estomacs. Une parade fut trouvée. Comme le castor est aquatique, et que sa queue présente des écailles, les chrétiens considérèrent qu'il y avait un peu du poisson dans le castor et la consommation de sa queue fut autorisée le vendredi. Les moines de la vallée du Rhône finirent même par fabriquer du saucisson de castor, garanti maigre. Le castor fut aussi traqué pour l'extraction d'une substance huileuse très odorante, le castoreum. le castoreum est sécrété par des glandes anales et joue un rôle dans la communication entre individus. Cette substance, dont on sait qu'elle comporte au moins une trentaine de composés chimiques, est parée de vertus médicinales. Parmi elles, la lutte contre les maux de tête et la fièvre. Ce n'était pas absurde, car le castoreum contient de l'acide salicylique, une molécule proche de l'aspirine, probablement issue des saules et peupliers que le castor grignote. S'ajoute à toutes les misères du castor l'aménagement des cours d'eau, tant et si bien qu'au milieu du XIXe siècle, le castor européen est très rare. Aujourd'hui, avec l'amélioration des fleuves et rivières, les castors regagnent du terrain et certains profitent de leurs vieux jours. Mais au fait, comment connaître l'âge d'un castor ? Difficile à partir de son squelette. Quoique, il existe un critère, la dimension de son os pénien. Une manière de revenir à la queue du castor, monsieur Dutronc ?
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce 1er janvier 2021. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe du Réveil Culturel, une bonne année, une année de retrouvailles, surtout une retrouvaille le plus vite possible avec les êtres chers, avec les voyages et les découvertes, dans la joie, le partage et l'esprit de solidarité. Pas d'invité aujourd'hui pour ce vendredi qui ouvre l'année, mais une visite chez le grand dessinateur Sempé. L'année dernière, il me recevait chez lui, avec ses grands yeux bleus, toujours pétillants de joie, avec la mémoire qui flanche un peu, mais qui, néanmoins, garde précieusement les grands moments de bonheur de la vie, de sa vie d'artiste. Écoutons encore une fois Jean-Jacques Sempé pour goûter à l'élégance de sa mélancolie.
Le réveil culturel.
Bonjour Jean-Jacques Sempé.
Bonjour, oui.
Oh ben ça me fait plaisir de vous revoir.
Moi aussi mon cher.
Non mais parce que je suis en train de vous voir en train de regarder vos premiers dessins et des fois vous faites un peu la moue.
Parce que il suffit de regarder, s'apercevoir qu'ils sont affreux. Ce dont j'étais conscient d'ailleurs à l'époque et qui ne me rendait pas joyeux.
Pour nous, ces dessins, même vos premiers dessins, parus dans les années 50, même cela, j'y trouve beau, bien sûr. Mais après, le trait va devenir plus fin, plus aérien.
Écoutez, quand c'est moche, c'est moche. Hein.
Ah bah alors, je vais vous poser autrement la question, Jean-Jacques Sempé. À partir de quel moment vous commencez à aimer votre trait, à aimer vos dessins ?
Ah mon cher, aimer, c'est beaucoup dire. Premièrement, il faut quelques années pour s'habituer, pour se dire, tiens, après tout, celui-là, il était peut-être pas si mal que ça. Mais aimer, c'est un bien grand mot. Accepter, disons, on va dire.
À partir de quel moment vous acceptez, vous êtes satisfait un peu de votre style ?
Depuis quelques années, quand même. Il n'y a pas très longtemps.
Est-ce que le regard des autres sur votre travail, sur votre dessin Sempé, est important et primordial, ou c'est d'abord votre opinion qui l'emporte sur toute autre considération ?
Les deux. Le regard que posent les gens sur ce que je fais est très important, et c'est normal.
Et pendant ce temps-là, vous feuilletez le catalogue oui. De l'exposition « Itinéraire d'un dessinateur d'humour ». Ça vous résume bien, dessinateur d'humour, Sempé ?
Je pense que oui. C'est ce que je suis, je crois.
Mais il n'y a pas que de l'humour dans vos dessins.
Vous voulez dire qu'il y a du tragique ? Hélas non, c'est pas toujours le registre comique, mais en grande partie, oui.
Est-ce que vous aimez toujours dessiner, Sempé ?
Écoutez, il y a un joueur de tennis que j'aime énormément. Il joue très bien. Et il m'est arrivé la même chose que lui. C'était le numéro 1 mondial, il était formidable. Et puis un jour, Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a changé d'entraîneur parce qu'il n'arrivait plus à gagner. Il jouait, mais il ne gagnait plus. C'était comme ça. Et ce type a beaucoup travaillé, le pauvre vieux. Et puis, il s'y est remis. Mais moi, c'est ce qui m'arrive avec le dessin. Parfois, il y a des moments où, clac, j'arrive pas à dessiner. Je suis épuisé, fatigué. J'ai même pas la force de commencer. Et quand je commence, c'est pire. Là, je suis gagné par un épuisement qu'il faudrait que je combatte par une sieste voluptueuse. C'est ce qui m'arrive.
Et après la sieste,
Mais il faut que je travaille.
Quand vous dites « il faut que je travaille », il y a quand même une partie de plaisir dans ce que vous faites.
Oui, bien entendu, mais le joueur de tennis dont je vous parle, il y a une grande partie de plaisir dans ce qu'il fait, sauf que c'est pas ce qu'il voudrait. Il ne gagne pas comme il voudrait. C'est pas aussi net qu'il le souhaiterait. Toute proportion gardée, dans mon travail, c'est la même chose.
C'est qui alors ?
Djokovic. C'est un bon joueur.
Dois-je comprendre par là, Sempé, que vous avez d'abord une idée de dessin, parce que pour nous, vous êtes le plus grand dessinateur du monde, hein, et pas seulement pour nous, pour le monde entier. Mais je sais que vous êtes très modeste, mais est-ce à dire que vous imaginez un dessin, et dans votre imaginaire, ce dessin est parfait, mais quand il faut le coucher sur papier, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ce que vous voulez nous dire?
Le dessin est parfait, c'est qu'il convient pour le rôle qu'il doit remplir, quelle que soit sa fonction. Et ça se produit difficilement et pas souvent. Et je recommence. Et il faut recommencer. Et le fait de recommencer comme ça est parfois terriblement épuisant.
Jean-Jacques Sempé, avec ses grands yeux bleus, assorti à sa chemise, avec deux cigarettes électroniques. Qu'est-ce que c'est que ces appareils? Vous aussi, vous utilisez ça?
J'ai des cigarettes électroniques, mais qu'est-ce qui vous étonne?
Mais vous avez été fumeur dans votre vie, Jean-Jacques Sempé?
Ben évidemment, j'ai été fumeur dans ma vie.
Et vous avez arrêté?
Je n'ai pas arrêté, puisque j'utilise ces machines stupides et ridicules, et pas très bonnes.
Vos dessins, Sempé, diriez-vous que ce sont des choses vues, ou bien ce sont des choses que vous auriez aimé voir dans la vie?
Oh, on va dire que ce sont des choses que j'imagine plus ou moins bien, pas plus ni moins.
Cette année, c'est une bonne année pour vous, Jean-Jacques Sempé, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez dit à quel point vous aviez une admiration sans borne pour le New Yorker, pour les dessinateurs du New Yorker.
Ah oui.
Et ben, cette année, vous avez une fois de plus une couverture du New Yorker.
Mais c'est-à-dire que j'avais été vexé. Ils m'avaient, ces braves gens, horriblement vexé. Je ne recevais plus New Yorker. Un jour, je téléphone. Pourquoi est-ce que je ne reçois plus le numéro? Et on me répond, le service n'existe plus. On ne l'envoie plus aux collaborateurs. Si vous le voulez, vous pouvez vous abonner. Alors là, j'ai été très vexé. Je me suis dit, en plus, il me demande de m'abonner pour recevoir les numéros. Alors, j'ai été vexé pendant un temps. Et puis, j'ai recommencé.
Vous n'aimez pas la bande dessinée, vous l'avez dit la dernière fois.
Pas du tout, je déteste ça. Je n'aime pas ça, je ne sais pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Cela, c'est parce que j'étais obligé. On me demandait de faire ça, alors je le faisais.
Vous parlez du petit Nicolas, de Raoul Tabour.
À l'époque, il était en bande dessinée jusqu'à ce qu'on décide, mon ami René Goscinny et moi, que lui ferait ses textes de son côté et moi quelques dessins, pas trop, parce que ça revient cher à imprimer le dessin. Alors, par nouvelle, il fallait 2 ou 3 dessins, pas plus. Sans ça, le livre revenait trop cher.
Pourquoi vous n'aimez pas la bande dessinée, Sempé ?
Si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas la crème pâtissière, allez-vous insister longuement de façon à ce que ce pauvre monsieur cherche en lui-même l'infâme chose qui s'est produite qui fait qu'il n'aime pas la crème pâtissière, ce qui n'est pas mon cas.
Oh bah non, mais je lui demanderai si c'est une histoire de goût ou si c'est pour des raisons de diététique, par exemple.
Ah non, il n'y a rien de diététique là-dedans.
Dans votre manière de ne pas aimer la bande dessinée, vous voulez dire ?
Non, j'aime pas cette forme de récit. Autant j'adore les nouvelles, les gens qui écrivent des nouvelles, ou tout simplement les gens qui font des dessins. J'ai jamais été tenté par la bande dessinée. J'ai essayé, j'ai été ridicule.
Je vous ai même vu un jour au Festival d'Angoulême qui voulait vous honorer. Vous étiez de passage pour dire que vous n'appartenez pas du tout à ce monde de la bande dessinée. Mais si on revient souvent sur la bande dessinée, c'est aussi pour avoir votre définition de ce qu'est un dessin. Est-ce que pour vous, un dessin doit se suffire à lui-même, que c'est pas la peine de rajouter des mots, des bulles ?
Ça, c'est le rêve. Au mur, vous pouvez voir, j'ai des dessins de craques. Ils se suffisent à eux-mêmes. Je les adore. Chaval, Steinberg, Bosque. Ah oui, c'était mon grand copain, Bosque. Il était bien meilleur que moi. Oh, lui, j'aimais beaucoup sa simplicité et puis l'humour qu'il avait, extrêmement original. Moi, c'était très laborieux. Lui, il était bien meilleur que moi. Et pourtant, c'était mon copain. C'est dégueulasse.
Vous exagérez, Sempé, quand vous dites laborieux, parce que vous êtes connu pour justement la finesse de votre trait, pour l'élégance de votre dessin.
Oh, c'est peut-être parce que je suis radin et que je ne veux pas dépenser trop d'encre.
Comment se fait un dessin ? Est-ce que ça a évolué au fil des années, la conception d'un dessin ? Est-ce que c'est d'abord une idée, des esquisses, des essais ?
Si vous trouvez le truc, soyez très gentil. Je vous invite à dîner. Expliquez-moi comment ça se fait.
Oh ben, je voudrais savoir comment vous faites un dessin, Sempé. Le dernier dessin que vous avez remis, vous savez ce qu'il représente et à qui vous l'avez fait ?
Je suis en train de le faire et il faut que je le recommence. Je le fais un pour un livre et deuxièmement, je pense que je vais le proposer à Paris Match.
Il représente quoi ce dessin ?
Une partie de boule de pétanque. C'est très français. C'est pas la peine que j'essaye de le caser au New Yorker. Vous savez, je suis allé souvent dans le Midi. Les gens passent leur temps à jouer à la pétanque. On m'a souvent proposé de jouer. Je joue très mal. Mais je joue. Le malheur, c'est que je n'ose pas le dire. C'est un jeu qui m'ennuie. Il m'ennuie prodigieusement. Moi, je veux bien avoir une boule à lancer. M'approcher d'une petite boule qui est plus petite et que tout le monde s'exclame que c'est bien. Je veux bien participer à la liesse générale, mais hormis le fait qu'il y a du soleil, je m'ennuie atrocement.
Mais alors pourquoi dessiner une scène d'un jeu qui vous ennuie, Sempé ?
Mais parce que non, j'avais envie de le faire. Et puis du coup, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, il est très mal dessiné. Il faut que je le refasse. Les expressions, les attitudes des gens, l'ambiance même du décor, tout ça est nul. Il faut le refaire.
Ça part de votre imagination ou généralement vous avez un souvenir d'un cadre précis ou une photo?
De vagues souvenirs. Mais on a tous vu des joueurs de pétanque. On en voit plein à Paris, au Champ de Mars. Les gens jouent beaucoup à pétanque.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Entre Paris et New York, quelle est la ville qui vous inspire le plus, Sempé ? Pour le dessin, bien sûr.
Je suis ébloui par Paris et je suis très admiratif devant New York, qui est d'une beauté stupéfiante.
Mais pour le dessin, qu'est-ce qui est mieux ?
Pour moi, je crois que ce qui est mieux, ce serait New York. Le côté gigantesque des bâtiments, la presqu'île de Manhattan, c'est très beau.
En voyant vos dessins, au fil de votre longue carrière, Sempé, on a l'impression que les gens que vous dessinez, ils sont heureux. C'est-à-dire, même s'il y a de la mélancolie autour d'eux, même si les choses ne sont pas aussi harmonieuses dans le décor, eux, ils ont l'air d'être heureux ou d'avoir échappé au malheur.
Mais je ne fais pas toujours ce que je veux, je fais avant tout ce que je peux. Alors parfois, c'est le hasard qui fait que l'ambiance est comme ci ou comme ça.
Vous qui avez sublimé les saisons sans paix, quelle est votre saison préférée ?
Comme tout le monde, le printemps, c'est le renouveau, tout le monde est content, l'hiver est fini, on va partir en vacances, les gens achètent des maillots de bain, c'est plus gai que d'acheter des imperméables.
Et pourtant, quand vous dessinez l'automne, il y a les belles couleurs de l'automne, on a l'impression que vous prenez du plaisir à dessiner les feuilles mortes sans paix.
Oh, ça doit être un palliatif décoratif. Ça m'arrange un peu. C'est plus facile de dessiner des feuilles mortes que des fleurs en pleine joie, en pleine gaieté, en pleine pousse, que les braves feuilles mortes qui ont fait leur boulot.
Vous aimez dessiner les saisons, vous aimez dessiner les villes. Et vous avez dessiné aussi les musiciens et les instruments de musique.
La musique est un art, pour moi, fondamental dans la vie. Je ne sais pas lire la musique, je ne connais pas le solfège. Et c'est très triste d'être un analphabète.
Les grands musiciens du jazz, vous avez fini par les rencontrer, ceux qui vous plaisaient.
J'en ai rencontré beaucoup. Et moi, ça m'a fait très plaisir de les rencontrer. Ce sont des gens que j'adore. Ah, le type que j'ai le plus aimé au monde, c'est Duke Ellington. C'est un prince, un type merveilleux, d'une élégance et d'une générosité folle. C'était un excellent compositeur. Ensuite, il avait une certaine chance. Son père était pianiste. Sa mère était violoniste. Il appartenait à une famille de musiciens. Et tout naturellement, il s'est mis à la musique sans souffrir. Il aimait ça. Sa sœur m'a raconté qu'il rentrait le matin d'une boîte de nuit complètement crevé. La boîte de nuit s'appelait le Cotentel. Il arrivait épuisé. Elle me dit, il puait l'alcool. C'était épouvantable. Il tenait à peine debout. Il avait joué toute la nuit. Il se mettait au piano. Elle était contente de voir son frère. Elle rigolait, elle bougeait devant lui. Lui, il se mettait à travailler. Et quand elle revenait à midi, il n'avait pas bougé. Il était toujours en train de travailler. Les mêmes motifs qu'il avait esquissés quand elle était partie. C'est charmant.
Puisque vous avez parlé des parents de Duke Ellington et de sa famille, vous, vos parents sans paix, ils étaient dans le vin ?
Oui. C'est la seule relation que je puisse trouver parce que le cher Duke Ellington aimait bien la bouteille. Hein. Mm-hmm. Ah, il aimait bien boire. Oui, mes parents étaient des gens tout simples dans la région bordelaise.
Sempé, puisqu'on est dans votre appartement, qui vous sert aussi d'atelier, dans le quartier de Montparnasse, entouré des dessins, des dessinateurs que vous vénérez, de quoi vous parlez avec vos amis dessinateurs ?
Mais les pauvres, premièrement, j'en ai beaucoup que j'adorais qui sont morts. Je rêve souvent d'eux, alors je suis toujours en contact avec eux.
Et en France ?
En France, écoutez... je fais des livres.
Et vous travaillez pour Paris Match de temps à autre.
Et puis je travaille pour Paris Match. Là, c'est plus simple. Ils envoient un courrier. Je ne les envoie pas par courrier. Par courriel, comment dit-on, non ?
Ah bah oui, par courriel, parfait.
Ah oui ? Je m'adapte vite. Hein.
Merci Jean-Jacques Sempé de m'avoir reçu chez vous. Mais c'est toujours un plaisir de vous voir.
Mais je comprends ça. À bientôt.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Dans quelques instants, les premières nouvelles du jour. Nous, on se retrouve lundi pour parler de Lovecraft, puisque les éditions Rue Saint-Ambroise sortent un recueil des meilleures nouvelles de Lovecraft avec une nouvelle traduction. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente année une fois de plus. Et au nom de toute l'équipe, c'est-à-dire au nom de Cyril Marchand, de Corinne Amard, du réalisateur Vincent Abouchard et de Souad Boukorsa qui est avec nous ce matin à la console. Bonne journée, à lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Dans le cabinet de la psychiatre Fatma Bouvet de la Maisonneuve, tunisienne mariée à un aristocrate français, les patients se confient, notamment sur les discriminations auxquelles ils doivent faire face. Un miroir nous est tendu, dans lequel se dessine notre société. Confidence, un écho du monde inédit. Je me suis fait la guerre. L'expérience, signée Stéphane Mercurio, ce dimanche à 22h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Oui, France Culture, c'est une radio, mais c'est aussi un grand jeu de société qui s'appelle Prenez l'antenne.
160 ans plus tard, on a enfin mis un nom sur cette célébrité anonyme.
Arnaud Laporte.
Constance Kenio, identifiée comme le modèle de l'origine du monde de Courbet, l'héroïne d'Histoire d'eau.
À qui les atlantistes s'opposent-ils traditionnellement ?
Émilie Aubry.
Aux pacifistes ? Aux continentalistes.
Vous êtes curieux et joueur ? Alors oui, le nouveau grand jeu de société de France Culture, Prenez l'antenne, est pour vous. En vente en magasin et sur Internet, toutes les informations sur franceculture.fr.
Dans quelles conditions va s'effectuer la rentrée universitaire ? Les étudiants et leurs enseignants vont-ils pouvoir retrouver les bancs de la fac ?
Politique. Hervé Gardette.
L'enseignement supérieur subit de plein fouet la crise sanitaire et le monde de la recherche s'inquiète de la nouvelle loi de programmation. Nous en discutons ce samedi avec Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Politique, ce samedi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h30 sur France Culture, le journal par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Emmanuel Macron a présenté hier ses vœux aux Français. Le président a notamment cité plusieurs citoyens pour leur engagement dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Nous reviendrons sur cette allocution à part dans la tradition des vœux présidentiels. Le chef de l'État a aussi tenté de se justifier alors que la politique vaccinale est très critiquée. Doit-on craindre des conséquences économiques pour la France maintenant que le Royaume-Uni est véritablement sorti de l'Union européenne? Nous y reviendrons. Un réveillon très particulier hier soir en pleine crise sanitaire. À Rio, pas de foule comme d'habitude sur la plage. Le 31 décembre, le quartier était bouclé, nous expliquera notre correspondante au Brésil. Les premiers mois de l'année seront difficiles et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays. Emmanuel Macron l'a déclaré hier soir dans ses vœux aux Français pour la nouvelle année. Une prise de parole marquée évidemment par la crise sanitaire. Un rituel républicain qui s'est déroulé de façon différente cette année, Antoine Marette.
Le président est assis devant un feu de cheminée comme un clin d'œil à Valéry Giscard d'Estaing. Il commence par dresser le bilan de 2020.
Cette année 2020 a été difficile. Elle nous a rappelé nos vulnérabilités. Elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles.
La nouveauté la plus marquante sur la forme, c'est cette énumération de 9 prénoms, 9 Français héros du quotidien que le chef de l'État félicite un à un. Une infirmière, un éboueur, un entrepreneur, un gendarme, une footballeuse ou encore un enseignant. Tous ces portraits sont censés symboliser l'unité française. Emmanuel Macron conclut sa liste par la désormais fameuse Morissette.
Morissette à 78 ans. Elle réside dans une maison de retraite de Sevran et il y a quelques jours, vous l'avez tous vu comme moi, elle a été la première Française à se vacciner contre la Covid-19 en voyant contre l'obscurantisme et le complotisme un magnifique message d'espoir pour l'année qui s'ouvre.
Espoir, c'est l'un des mots les plus répétés par Emmanuel Macron. Le chef de l'État recourt à la méthode Coué. Le quoi qu'il en coûte devient le quoi qu'il arrive.
En 2021, quoi qu'il arrive, nous saurons donc faire face aux crises sanitaires, économiques et sociales, terroristes, climatiques, en 2021. Quoi qu'il arrive, parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir.
Emmanuel Macron parle d'Europe, d'environnement, de sécurité, de laïcité. Pas un mot ou presque, en revanche, sur la culture, les retraites ou encore Jean Castex. Le président de la République veut se rapprocher des Français pour cette dernière année pleine du quinquennat, au risque de rendre son Premier ministre transparent.
Emmanuel Macron, qui a aussi promis hier pour 2021 d'inventer une économie plus forte. Nous reviendrons sur l'aspect économique dans le journal de 7h. Nous évoquions Morissette et le début de la campagne de vaccination, campagne très critiquée par certains qui regrettent sa lenteur. Depuis le début de la semaine, médecins et spécialistes pressent le gouvernement. Hier soir, le président a répondu en partie à ces critiques, Tara Schlegel.
Le président de la République n'a pas intégré dans son discours, forcément préparé en amont, les dernières annonces sur l'accélération de la campagne de vaccination. Il a préféré brandir le symbole de Morissette, que toute la France a vu se faire vacciner à 78 ans, envoyant ainsi, dit Emmanuel Macron, un message d'espoir contre le complotisme. Le président a insisté sur les deux exigences qu'il veut tenir pour que le vaccin, cet espoir que le génie humain a fait advenir en un an, fin de citation, pour que le vaccin, donc, soit accessible à tous les Français qui le souhaitent, même si, pour l'instant, ils ne sont que 40% environ. Ces deux exigences sont à la fois qu'il ne faut pas transiger sur la sécurité et les bonnes conditions de l'administration des vaccins. Autrement dit, obtenir le consentement éclairé des patients, informer, jouer la transparence, respecter la chaîne du froid, etc. Et ne pas non plus laisser une lenteur injustifiée s'installer, fermer les guillemets. Allusion sans doute au tweet d'Olivier Véran qui, quelques heures avant, annonçait que les soignants de plus de 50 ans vont pouvoir se faire vacciner dès lundi prochain. Le ministre a aussi promis d'ici un mois environ l'ouverture de centres de vaccination en ville, ce qui revient à un vrai changement de stratégie qui ne dit pas son nom et que le président de la République n'a pas non plus souhaité mettre en scène dans son discours.
Pour rendre hommage à ceux qui luttent contre le Covid-19, des centaines de personnes recevront la Légion d'honneur aujourd'hui. Sur les 3800 personnes décorées, plus de la moitié le sont pour avoir lutté, souvent dans l'ombre, contre cette épidémie. Des médecins, directeurs d'hôpital, épidémiologistes, infirmières, pilotes d'hélicoptères de la sécurité civile. 40 personnes décédées du Covid dans l'exercice de leurs fonctions sont également décorées à titre posthume. Il s'agit principalement de personnel hospitalier et de soignants. Emmanuel Macron, dans ses vœux, a aussi parlé du Brexit. Le Royaume-Uni a quitté véritablement l'Union européenne à minuit. Cependant, il demeure notre voisin, mais aussi notre ami et notre allié, a affirmé le chef de l'État. Ce choix de quitter l'Europe a été l'enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. Mais je veux moi vous dire très clairement, notre destin est d'abord en Europe, a ajouté le président français. Il faut dire que le Brexit ne s'est pas fait dans la douceur. 4 ans et demi d'un feu compliqué et douloureux pour les Britanniques comme pour les Européens. L'accord qui encadre désormais leur nouvelle relation commerciale a été signé mercredi. Faut-il craindre des conséquences économiques pour la France ? Explication d'Annabelle Grelier.
Déjà, de par sa situation géographique, la France est évidemment plus à risque. Elle est le pays voisin direct du Royaume-Uni, la porte d'entrée vers le continent. 80% des flux commerciaux britanniques transitent par le territoire français, un passage obligé qui sera désormais beaucoup moins fluide, ralenti par les contrôles douaniers réglementaires. Qui dit moins fluide, dit plus lent, et toutes les chaînes de production intégrées, notamment dans le secteur de l'automobile, qui fonctionne sur le mode just-in-time, ce procédé industriel qui s'appuie sur l'acheminement rapide et précis des pièces détachées provenant des usines aux quatre coins de l'Europe, eh bien les chaînes de production vont forcément en pâtir. Le secteur de l'aéronautique va devoir également s'adapter, sans parler de l'agroalimentaire qui devra absorber le surcoût des contrôles vétérinaires et phytosanitaires. Et comme la France exporte plus qu'elle n'importe vers le Royaume-Uni, elle a donc plus à perdre. Pas de catastrophisme toutefois du côté de Bercy, qui estime qu'au pire, on peut s'attendre à une perte de l'ordre de 0,1% du PIB, quand la Banque de France estimait dans ses dernières prévisions que l'accord trouvé pourrait avoir même un impact positif de 0,2 points de PIB pour l'économie hexagonale en 2021. La vérité, c'est que personne ne peut réellement prédire quelles seront les conséquences du Brexit pour l'économie. Et bien difficile de savoir où iront à l'avenir les investissements et les flux financiers quand la City de Londres se retrouvera plongée dans la situation inédite de perdre son passeport européen.
Notons que le Portugal succède à l'Allemagne à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Le semestre sera encore marqué par la réponse à la crise sanitaire. À New York, hier soir, le quartier de Times Square était bouclé, les fêtards invités à rentrer chez eux pour suivre le compte à rebours à la télé. À Paris, les Champs-Élysées étaient vides, pas de foule cette année pour le réveillon. L'ambiance était un peu étrange. Au Brésil, deuxième pays le plus touché après les États-Unis, le président Jair Bolsonaro ne prend toujours pas de mesures pour éviter la propagation du Covid-19. Ce sont les maires et les gouverneurs qui ont établi des règles pour éviter les regroupements. Une politique de plus en plus difficile à faire respecter, Anne Vigna.
Les Brésiliens se préparaient à fêter le réveillon juste au moment où la nouvelle souche du coronavirus était identifiée sur leur territoire. Sans aucun confinement, les gouverneurs locaux ont cependant appelé la population à limiter les fêtes et les sorties. À Rio de Janeiro, le traditionnel réveillon où 1 million de personnes se retrouvent sur la plage avec feux d'artifice et concerts a simplement été annulé. Mais étant donné la recrudescence des fêtes sauvages, le quartier a même été bouclé à partir de 20h hier soir. Ne pouvaient pénétrer que les habitants ou les touristes munis d'une attestation de résidence. Ces mêmes mesures ont été prises dans bien des stations balnéaires actuellement très fréquentées où les maires font face à une multiplication de fêtes en tout genre en plein été. Le président Bolsonaro s'oppose à toute restriction et a au contraire et une nouvelle fois provoqué un attroupement sans masque à son arrivée à Guarujá sur la côte de l'État de São Paulo.
Tandis qu'à Wuhan, en Chine, où les premiers cas de Covid-19 ont été repérés il y a un an, l'heure était à la fête. Des milliers d'habitants de la ville ont célébré le passage en 2021. La foule en liesse a lâché des ballons devant la tour de l'horloge du bâtiment des douanes, un des sites historiques de la mégapole. Après avoir joué dans une centaine de films, en avoir réalisé une quinzaine, Robert Hossein est mort hier. Il venait d'avoir 93 ans. Il était l'acteur fétiche de Roger Vadim. et incarner le balafré Geoffrey de Peyrac dans la série des Angéliques. Le temps sera très gris dans une moitié est de la France aujourd'hui, meilleur dans l'ouest avec des éclaircies. Météo France prévoit 1 degré seulement cet après-midi à Nancy, 3 à Paris et Rennes, 4 degrés à Calais, 6 à Bordeaux et jusqu'à 9 degrés à Marseille. Météo France qui place 2 départements en vigilance orange pour neige et verglas, la Drôme et l'Isère. 3 sont toujours surveillés pour des risques de crues, les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Vous êtes bien sur France Culture, il est 6h40, place au Journal des Idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Margot Delpierre, bonne année à vous, bonne année à toutes et à toutes.
Bonne année Jacques, le réchauffement climatique menace les icebergs et les glaciers. Ils sont les témoins directs de l'état de santé de notre environnement.
Les glaciologues veillent, auscultent et constituent les archives du climat. L'opération Ice Memory a entamé une campagne d'archivage d'une vingtaine de glaciers à travers le monde et un site est projeté en Antarctique pour conserver les carottes de glace par moins 54 degrés Celsius. Libération consacre une série d'entretiens conduits par Catherine Calvet et Thibault Sardier à cette aventure scientifique. Dans le troisième épisode, le géochimiste, glaciologue et paléoclimatologue Jérôme Chapelaz, à l'origine du projet Ice Memory, explique que les premiers carottages de glace ont été effectués dans les années 1980 à Vostok, en Antarctique, sur une profondeur de 2083 mètres et contenaient des glaces vieilles de plus de 400 000 ans, qui ont permis d'analyser à la fois la période chaude que nous vivons depuis 12 000 ans, la glaciation qui la précédait, ainsi que la précédente période chaude et la précédente glaciation. Aujourd'hui, dans l'IB, dernier épisode de la série Feu la glace avec Lydie Lescarmontier, glaciologue et océanographe. Elle a navigué à bord de l'Astrolabe en Antarctique jusqu'à la base de recherche française Dumont-d'Urville en Terre Adélie. Elle fait le récit de son exploration dans un livre à paraître en février chez Flammarion, La Voix des Pôles. Sa mission, étudier le glacier Mertz, une vaste plateforme de glace qui vèle, c'est-à-dire qui libère un iceberg tous les 70 ans en moyenne. Et il a justement vélé en février 2010 un iceberg monumental, 80 km de long par 35 km de large. Elle aussi observe les effets du réchauffement, même s'ils sont moins perceptibles qu'en Arctique. Pour la période 2006-2015, on estime à 280 milliards de tonnes le volume de glace perdu au Groenland chaque année, contre 155 milliards en Antarctique, alors que cette calotte contient presque 10 fois plus de glace, observe-t-elle, et elle évoque l'inquiétude des scientifiques, la possibilité de passer des sortes de seuils qui entraîneraient un emballement du système de fonctionnement de la calotte antarctique et la disparition de grandes quantités de glace très rapidement et de façon irréversible. En dehors des pôles, les glaciers représentent 2% des terres émergées. Dans la revue L'Alpe, Caroline Audibert fait le point sur la cryosphère terrestre. Elle évoque la belle diversité de ces organismes monumentaux, le glacier du Rhône et ses teintes rouges, les roches ferrugineuses infusant dans les glaces, le Gorner et ses bédières, des torrents sous-glaciaires qui serpentent et plissent le grand corps de glace argenté, ou encore le glacier de Corbassière aux grandes combes lisses et bleues. De leur vie majestueuse et secrète émane toute une série de bruits sourds et variés, une musicalité galactique sidérale ponctuée de craquements, d'ondulations et de singulières déflagrations. Boris Jolivet les a captés avec toute une batterie de micros et d'hydrophones. Écoutez ça, le chant des glaces. Quand le soleil arrive sur la glace, commente l'audio naturaliste, La rupture thermique est violente et la glace peut se fendre sur 200 mètres, ce qui produit de longues tirades mélodiques. Le soir, quand le soleil se couche, la glace se resserre, ça produit des fissures plus sèches et on entend des impacts, des détonations à plus d'un kilomètre. Les chercheurs s'intéressent aussi à la vie sismique des glaciers, frottements sur la roche-mère, ouvertures et fermetures de crevasses, poussées, compressions, écoulements. L'eau y est très présente, la fonte des glaces creusant des moulins qui alimentent des rivières souterraines, qui font ensuite résurgence pour s'écouler jusqu'à nous. Mais aujourd'hui, la vie des glaciers s'est ralentie, conséquence d'une diminution rapide de leur masse. Le dernier rapport du GIEC signale un changement du volume et du rythme saisonnier de l'écoulement et des ressources en eau dans les bassins hydrographiques alimentés par les glaciers. Ceux du Groenland et de l'Antarctique représentent 70% du stock d'eau douce de la planète. (6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster. Au programme aujourd'hui, les questions posées par le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.
Merci Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous. Les États-Unis peuvent-ils solder leur guerre lointaine? On en parle ce matin dans les enjeux internationaux pour ce cinquième et ce dernier volet d'une série d'émissions consacrées au grand dossier à surveiller en cette année 2021. Ramener les soldats américains à la maison, c'était l'objectif déjà affiché ces dernières années par Donald Trump. On se souvient des conditions chaotiques du retrait des troupes américaines de Syrie entre 2018 et 2019. Celui qui est encore président des États-Unis jusqu'au 20 janvier prochain a récidivé à quelques jours de la fin de son mandat en annonçant un retrait plus rapide que prévu des troupes américaines stationnées principalement en Afghanistan, mais aussi en Irak et en Somalie. Un retrait qui est loin d'aller de soi, qui pose déjà un certain nombre de problèmes dans les pays concernés, des problèmes sécuritaires localement, qui pourraient porter en germe de futures crises. C'est ce que craignent en tout cas de nombreux responsables de l'OTAN et même du Pentagone. Alors, les États-Unis peuvent-ils vraiment solder leur guerre lointaine? Nous en parlons avec Annick Cizel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Alors, Annick Cizel, si vous le voulez bien, pour commencer, ce retrait américain d'Afghanistan, 2000 soldats devraient avoir quitté le sol afghan d'ici la mi-janvier, d'après une décision communiquée par Donald Trump, ne resterait dans le pays que 2500 hommes qu'il appartiendrait à l'administration Biden de faire rentrer aux États-Unis. Ce départ d'Afghanistan était prévu, mais il est quelque peu et se trouve quelque peu précipité, un peu au mépris des conditions sécuritaires sur place. Pour vous poser la question clairement, Annick Cizel, ce retrait, alors non dans son principe, mais dans sa forme, est-ce que c'est une manière pour Donald Trump de saboter le début du mandat de Joe Biden ?
C'est véritablement une politique du fait accompli, oui. Et il y a différents terrains d'opération, déjà historiques ou supposés, qui sont dans le collimateur de Donald Trump aujourd'hui, avec un compte à rebours sur un calendrier à double entrée. Une première entrée au 5 janvier, qui est l'entrée du deuxième tour, si on peut le dire comme ça, des négociations entre le Conseil de réconciliation nationale afghan et les talibans. Les négociations reprennent à Doha au Qatar avec une date butoir au 5 janvier, de résultats dont un accord politique côté afghan qui est la condition pour le retrait des troupes américaines. La condition première étant un engagement des talibans à protéger les intérêts sécuritaires des États-Unis et de leurs alliés. C'est-à-dire que le territoire afghan, selon les termes du traité du deal signé entre les États-Unis et les talibans le 29 février dernier, la première clause de cet accord était que les talibans s'engageraient à protéger les États-Unis, à ce que plus aucune attaque contre les États-Unis et leurs alliés ne puisse jamais être menée depuis le territoire afghan. En d'autres termes, sous-traitant quelque part aux talibans la mise en veilleuse d'Al-Qaïda ou des forces de l'État islamique qui ont cherché refuge en Afghanistan. Et ces négociations qui reprennent donc actuellement doivent se conclure au plus tard au 5 janvier. On se souvient également que le 5 janvier, c'est la date à laquelle on aura la composition définitive du Sénat des États-Unis. Le Sénat joue un rôle très important en termes de politique extérieure des États-Unis. et une deuxième date dans ce calendrier qui est l'objectif du 15 janvier 2021, c'est-à-dire le retrait et potentiellement donc ne laisser que 2500 troupes, soldats américains sur le sol afghan, en sachant que le retrait d'Afghanistan, qu'il se fasse par Donald Trump ou que ce soit le retrait d'Irak par Barack Obama au 31 décembre 2011, la fin de la guerre de George W. Bush, de cette première guerre, cette première fin de guerre de George W. Bush au 31 décembre 2011, c'était la fin d'une guerre, c'était le retrait des troupes combattantes, mais en aucune manière la fin de la présence des soldats américains, notamment au sein de l'OTAN, dans des missions de formation, de conseil, d'assistance, de financement de la sécurité endogène, de la sécurité intérieure de l'Irak, puis de l'Afghanistan aujourd'hui.
Alors, Annick Cizel, peut-être une remarque sur la méthode qui a été choisie par le président sortant, Donald Trump. Il n'est absolument pas courant dans les usages politiques aux États-Unis pour un président sur le départ de prendre des initiatives importantes en matière diplomatique ou de défense. Je vous posais peut-être la question de façon un peu abrupte il y a quelques instants, saboter le début du mandat de Joe Biden. Mais est-ce que ça peut quand même laisser des traces, cette espèce de grand flou artistique, si je puis dire, en matière diplomatique et de défense, qui sont des questions extrêmement lourdes. On parle quand même d'un retrait de troupes, de plusieurs milliers de soldats. Ce sont des choses qui s'organisent, qui sont très lourdes au niveau logistique.
Alors, c'est d'autant plus lourd en termes de Covid, d'ailleurs. C'est-à-dire que les forces armées américaines actuellement ont du mal à faire rentrer leurs forces à la maison, comme à les déployer d'ailleurs sur les terrains d'opération où, et il n'est pas question de les retirer pour l'instant, je pense à l'Indo-Pacifique en particulier. Tout ceci est donc cette logistique est encore complexifiée par la pandémie de Covid. Mais aux États-Unis, alors, bien sûr, ça ne va pas de soi, et bien sûr, écraser le protocole et tous les protocoles, cela fait 4 ans que Donald Trump nous habitue, finalement, à cette imprévisibilité qui est devenue très prévisible. Certes, il essaye absolument de diriger son mandat, et son unique mandat pour l'instant, à la hauteur de celui de Barack Obama. Il est toujours en quête d'un prix Nobel de la paix. Il est toujours en quête de conclure l'autre guerre de George W. Bush, puisque Barack Obama a officiellement, politiquement en tout cas, conclu la guerre en Irak. Lui, Donald Trump, doit conclure celle d'Afghanistan. C'est un récit politique. Sauf que le président des États-Unis n'a pas les pleins pouvoirs, il y a encore une constitution au-dessus de sa tête, et qu'il y a 2 contre-pouvoirs qui s'expriment pas du tout dans le même sens que le président, que le commandant en chef des forces armées américaines actuellement. L'un de ces contre-pouvoirs est le Pentagone. Certes, une nouvelle fois, Donald Trump a obtenu la démission de son ministre de la Défense. Mark Esper a finalement claqué la porte au mois de novembre, comme Jim Mattis l'avait fait avant lui à la veille de Noël 2018. En refusant, donc le Pentagone, les militaires, refusant ce retrait d'Afghanistan, et dans le cas de Jim Mattis en 2018, il s'agissait de la guerre en Syrie également. Mais même en reprenant la main, via Christopher Miller, sur le Pentagone, le commandant en chef des forces armées des États-Unis a en face de lui le chef d'état-major. Et le général Milley exprime, à fleur et moucheté, avec toute la diplomatie dont les militaires savent faire preuve vis-à-vis du président des États-Unis, son désaccord. Mais peut-être plus important à très court terme aujourd'hui, c'est l'opposition du Congrès. Le Congrès des États-Unis qui est en marche vers, alors qui a déjà suscité le premier veto de Donald Trump contre la loi, le projet de loi annuel de la défense des États-Unis. On se focalise beaucoup sur les chiffres, sur le budget de la défense, mais ce projet de loi qui vient de voir une première alliance bipartisane au sein de la Chambre des représentants pour refuser au président des États-Unis, d'ici à l'investiture de Joe Biden, le droit de retirer les troupes d'Afghanistan, d'Allemagne et également de Corée du Sud. Et ce Congrès, encore une fois de manière bipartisane, c'est tellement rare sous Trump que je le souligne 2 ou 3 fois, est en train de bloquer la volonté du président des États-Unis.
Sur le plus long terme, Annick Cizel, est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même une continuité avec ce qu'est la doctrine stratégique des États-Unis depuis des années ? Et je pense en particulier au mandat de Barack Obama, qui avait théorisé cette idée selon laquelle il fallait désormais diriger depuis l'arrière, c'est ce qui avait été dit au moment de la guerre en Libye, « lead from behind » en bon français. Est-ce que cette logique de mettre un terme aux guerres lointaines pour faire basculer les moyens américains vers les réels intérêts de cette Amérique. Est-ce que ce n'est pas une tendance qui est à l'œuvre depuis plusieurs années, évidemment avec des gros changements selon la personnalité de la personne qui se trouve à la Maison-Blanche? Mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance de très très long terme?
Absolument. Ce changement de paradigme, vous avez tout à fait raison, il est sur le long terme. C'est un changement de moyen de faire la guerre, c'est faire la guerre d'une autre manière. Et je vais me permettre de tracer une ligne de continuité vers l'administration Biden à venir là-dessus. Les guerres américaines vont se mener d'une autre manière. Elles se mènent par les drones, avec une utilisation très importante, sous Trump d'ailleurs, de ces assassinats ciblés. Par le développement de la robotique, par le développement à la fois des capacités de défense, mais également d'attaque, dans le cyberespace. Bien sûr, c'est une tradition américaine démocrate autant que républicaine par l'utilisation de sanctions économiques et financières. Mais surtout, les terrains d'opération multidomaines, comme disent les militaires américains, se tournent aujourd'hui vers la bataille de l'information et de la désinformation, vers la réappropriation par l'armée américaine, pas tant du soft power de la guerre froide, mais de la capacité d'influence, de la capacité de reprendre la maîtrise des champs de bataille cognitifs, si je peux les appeler ainsi, et de reprendre l'initiative de l'influence. Aujourd'hui, les menaces qui sont identifiées de manière bipartisane, démocrate autant que républicaine, et notamment par les militaires, c'est la Chine, c'est la Russie, ce sont les capacités de cyberguerre de la Corée du Nord ou de l'Iran. Et donc, c'est un autre type de conflit qui est en train de prendre la primauté des inquiétudes et de la modernisation technologique de l'armée américaine.
Et ce sont des dossiers qu'on suivra évidemment toute cette année 2021, puisqu'on ne peut pas faire de prospective sur les événements à venir. Mais en tout cas, avec ce portrait que vous venez de brosser, Annick Cizel, on a déjà une bonne idée des enjeux de cette année. Merci beaucoup Annick Cizel. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Et je signale à nos auditeurs que lundi prochain, c'est Julie Gacon que vous retrouverez à ce micro. Excellente journée et très bonne année à toutes et à tous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Avis personnel, expertise, coup de cœur ou flop, l'actualité artistique par Lucille Como.
La critique, c'est un temps donné tous les vendredis aux commentaires subjectifs et informés de l'actualité culturelle, avec des critiques de tous bords et de tous genres pour que vive ce goût partagé et contagieux de la dispute, qu'elle concerne des films, des livres, des expositions, des séries, des bandes dessinées, bref, tout ce qui sème et se discute.
La critique, le vendredi à midi sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
7h-9h, les matins de France Culture. Hervé Cardette.
Vous écoutez France Culture et c'est déjà l'heure de vous retrouver, Hervé Cardette, pour votre billet d'humeur.
Merci Antoine Dulster et bonjour à tous. Il est de coutume, le 1er janvier, d'égrener toutes les nouveautés qui se mettent en place pour la nouvelle année. On ajoute. Eh bien, si pour changer et pour démarrer 2021 en se sentant un peu plus léger, ce qui ne sera pas du luxe eu égard aux 12 mois que nous venons de passer, et si on se délestait de tout ce qui est en trop? Ce qui tombe bien, c'est que la loi va nous y aider. À compter d'aujourd'hui, il va falloir renoncer aux pailles en plastique, aux touillettes, aux picastèques, aux tiges pour ballons, aux boîtes en polystyrène expansées, de celles dans lesquelles on dépose des kebabs, renoncer également aux verres et aux assiettes en plastique à usage unique, aux confettis s'ils sont fabriqués dans la même matière, et ce, conformément à la loi sur l'économie circulaire votée en début d'année dernière, disparition définitive. Une autre chose disparaît, celle-ci de manière sans doute beaucoup plus provisoire, mais je dois dire qu'en ce qui me concerne, c'est un poids en moins sur mes épaules en ce début du mois de janvier. Sur mes épaules, je devrais dire sur mes joues, car cette année, alléluia, il n'y aura pas la bise du 1er janvier. La bise du 1er janvier, c'est presque pire que celle de la Toussaint, lorsque vous croisiez petit au cimetière le vieil oncle qui parle très fort ou la vieille tante qui pique. Celle du 1er janvier et des jours suivants jusqu'au 31, c'est celle que vous vous sentez obligé d'échanger avec vos collègues. Allez, on se fait la bise ? J'ai développé au fil des années des stratégies pour esquiver ce rituel, mais comme dit le proverbe, chasser le rituel, il revient au galop. Bref, s'il y a une chose dont je vais facilement me passer cette année grâce au télétravail et aux gestes barrières, c'est bien de la bise du 1er janvier. Ne le répétez à personne, mais pour fêter ça, j'ai mis de côté une grosse poignée de confettis et de cotillons en plastique. Bonne année !